Malika Djardi, jeune chorégraphe et danseuse, a présenté un triptyque au Tandem Théâtre d'Arras Hippodrome de Douai avec les pièces Sa prière, Orion et Troie. Les deux premières ont été interprétées au Théâtre d'Arras fin janvier et pour le dernier volet du triptyque, Troie, qui a été proposé le 22 mars à l'Hippodrome de Douai, Malika Djardi nous a emmenés dans un univers de science-fiction dans lequel trois femmes tentent d'inventer un nouveau langage de vie et d'humanité. Jean Pasqualini a rencontré cette jeune chorégraphe après la générale de Troyes la veille de la représentation en public.
Composition chimique de l'atmosphère à l'extérieur. Diazote, dioxygène, argon, néon, krypton, xénon, méthane, risque d'anoxie important. Les activités telluriques sont fortes à très fortes. Orientation nord-est, sud-ouest, tempête de poussière en formation. Hygrométrie stable, taux constant de...
Vous présentez un triptyque en fait au Tandem. Vous avez présenté deux pièces, Sa prière en solo, un duo Orion au Théâtre d'Arras, et puis le dernier volet du triptyque, justement intitulé Troie. Qu'est-ce qui fait l'unité de ces trois pièces? Est-ce que c'est la volonté d'explorer quelque chose au travers de trois formes? Solo, duo, trio, ou est-ce que c'est un thème commun qui progresse au travers de justement de ces trois formes?
En fait, ça a été posé comme ça, le fait que ce soit un triptyque, et je pense pas qu'au départ je l'avais pensé comme ça. Enfin, en tout cas, ça a été amené de cette façon-là. Mais en tout cas, ce qui peut lier un peu les trois projets. Ce serait la notion en fait de vers quoi on tend, enfin vers quoi je tends en fait. En tout cas, quel est le prétexte à chaque fois que j'utilise pour mettre en avant cette pratique qu'est la danse et la croyance que j'ai en cette pratique. En tout cas, je sais pas si on peut dire croyance parce que c'est peut-être un gros mot, mais en tout cas voilà, il y a vraiment une chose de comment j'investis ça à chaque fois, et du coup voilà, avec Sa prière, ça a été plutôt dans une forme documentaire avec un lien avec justement la question de la religion au travers du discours du récit de ma mère. Orion, c'est un espèce de grand écart comme ça où finalement c'est peut-être un peu plus proche là de ce projet, dans une espèce de fiction sur Adam et Ève, parce qu'à la fin de Sa prière, ma mère parle justement du paradis. Dans la religion, il faut aller au paradis, et du coup, il y a des étapes. Et, enfin, en tout cas, il faut y retourner, parce qu'on en vient, apparemment. Voilà, du coup, il y avait ce délire sur Adam et Ève, et là... c'est l'idée d'un futur apocalyptique. Et en même temps, justement, qu'est-ce qui pourrait nous maintenir ensemble, nos sensibilités, nos nouvelles formes de langage. Voilà, du coup, et pareil, moi, à chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est de créer un nouveau langage avec, je pense aussi, toujours un rapport musical différent, mais toujours un vrai rapport à la musique qui m'intéresse. Bon, Sa prière, c'était... Il y a toujours une relation aussi, peut-être, à la narration, comment une narration sous-tend un projet pour moi, parce qu'il y en a, il y a pas mal de chorégraphes qui ne sont pas intéressés finalement par la question de la fiction ou du récit. Et moi, je pense que je suis intéressée par cet aspect-là dans mes projets. Et donc là, en l'occurrence, dans Troie, ce monde apocalyptique, pardon, et le fait que ce sont des femmes qui... peut-être qu'il y a quelque part aussi ma vraie envie de mettre cette communauté de femmes, cette communauté de langage féminin en scène... Avec un peu de drôlerie peut-être, mais en même temps pas mal de sérieux finalement, hein, parce que voilà, comme on en parlait tout à l'heure, j'aime beaucoup le second degré, mais j'aime aussi beaucoup une forme de spiritualité ou développer comme ça un univers.
On va revenir sur cette dernière pièce, le dernier volet du triptyque, 3. Bon, auparavant, je voudrais que vous me disiez quelque chose sur le solo, sur Sa prière. Donc on entend la voix de votre maman qui raconte son rapport à la religion, sa conversion à l'islam. Et vous, à côté, c'est un écho, c'est un contrepoint, c'est un peu une subversion aussi du langage de votre mère, mais respectueux en même temps.
Alors, je pense que voilà, si je l'ai fait avec ma mère, c'est qu'on en parle et elle a quand même écouté, hein. Elle a validé tout ce qui a été sélectionné pour être passé sur le plateau. Et effectivement, je suis en contrepoint. Moi, je pense, enfin, en tout cas, je suis pas pratiquante musulmane plus, parce que je l'ai été quand j'étais, un peu d'office. Justement, il y a ce rapport où en fait. Une religion, je pense, ou alors une pratique, on va vers elle. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, finalement, au tout départ. Il y a comme une attirance, comme ça, à un moment donné, on se dit, bon, il y a ça qui m'intéresse, j'y vais. Et moi, voilà, c'était peut-être... alors, je ne sais pas si j'avais pas... Comme ma mère, en fait, on ne l'a jamais vraiment... Enfin, quoique, elle était très catholique et elle allait au catéchisme. Voilà, sa famille était catholique, etc. Donc, il y a eu quand même un petit peu de filiation comme ça, où tu es un peu obligé de croire en quelque chose, en une religion. Mais moi, je pense le rapport... J'ai pas du tout envie d'être critique par rapport à... Moi, je respecte vraiment les gens qui sont croyants en Dieu. Enfin, vraiment, j'ai pas de... C'est leur propre histoire. Et je crois que c'est ça, en fait, que j'ai envie de dire. On a tous nos rêves, nos puissances internes, quelque chose qui nous tient du fait d'être sur Terre. Et c'est aussi ça, après, avec trois, on ne sait toujours pas pourquoi on est là. Et en même temps, on sait qu'il y a un espèce de chose qui s'appelle le grand attracteur, qui est le trou noir supermassif qui nous attire tous et qui va faire qu'un jour, il y aura un big rip ou un big crunch ou quelque chose comme ça. Et donc...
On peut parler du dernier volet, du triptyque 3. On vous parlait de vision d'un monde apocalyptique. Bon, je ne l'ai pas perçu comme cela. Plutôt post-apocalyptique. On a l'impression qu'il s'est passé quelque chose, effectivement. Mm-hmm. Mais la pièce
non,
elle-même...
C'est plutôt post-apocalyptique, ouais. C'est pas... Enfin, apocalyptique. C'est un peu le post-Jérôme Bosch encore, quoi. Ouais. Le quatrième tableau de l'après. Ouais, post-apocalyptique, ouais, effectivement.
Le langage que tu as développé occupe une nouvelle zone du spectre électromagnétique. Tu cherches à travers lui de nouvelles sensations, c'est ça ? Une configuration de sensations pensées libérées du traumatisme de la grande dessiccation et de sa transmission neurogénétique ? L'eau dont je suis le gardien peut aussi t'apaiser. C'est la source du soin que tu cherches, m'as-tu dit. Mais ça ne peut.
Il y a un dispositif scénique, il y a une espèce de solide, alors on ne sait pas trop si c'est solide, c'est translucide, c'est peut-être gazeux, lumineux. L'ensemble de la scène est plutôt dans la pénombre. Et sur ce solide gazeux se reflètent des images, des mouvements, des couleurs. Et puis, dans une première partie, vous êtes seul sur scène, et après, il y a la rencontre avec deux autres danseuses, donc trois femmes, effectivement. Est-ce que c'est, alors, vous portez des masques. Est-ce que, justement, est-ce que c'est l'histoire de retrouver une communication, un nouveau langage entre les personnes?
Alors, à la fois, c'était... Parce que comme... Je parlais de cette chose de dérision. Pour moi, en fait, la science-fiction, elle permet beaucoup de choses. Et en même temps, voilà, elle permet de se poser des questions sur aujourd'hui, en fait, où on en est. Par exemple, par rapport à des questions écologiques. Effectivement, moi, j'ai été en Asie et ils portent tous, en fait, des masques comme ça. Et même s'ils ne servent pas à grand-chose, très honnêtement, les particules fines, ça passe à travers. Et du coup, c'est effectivement à la fois, en fait, pour... à un moment donné, le monolithe parle de ça, parce qu'il est un peu contextuel aussi, en fait. Moi, je me sers de cette interface, un peu comme aujourd'hui, on est tout le temps avec des ordinateurs. Du coup, c'est un projet qui parle d'un futur déjà passé, un peu. C'est-à-dire que c'est ce qu'on vit déjà actuellement, c'est le rapport à la technologie, à des voix qu'on entend avec nos téléphones, avec... un besoin de présence comme ça, parce qu'il y a des grandes solitudes et on a besoin de cette présence dans l'écran, dans même se regarder au cinéma, enfin toutes les pratiques qu'on peut avoir de spectacle ou de divertissement ou même artistique, de la reproduction du réel ou de... Voilà, on a un rapport de regarder l'autre, catharsis, etc., etc. Mais du coup, ce monolithe, je trouve intéressant de à la fois de lui donner ce côté humain qu'on aurait plus nous, du langage, et en même temps de pas non plus mettre des images de reproduction du réel, mais que voilà, lui, il ait un peu cette capacité de produire de l'abstraction. Voilà, des formes abstraites. Donc il y a tout un langage, moi, qui m'intéresse sur les formes, à la fois les formes du langage et les formes, les choses très formelles, en fait, à la fois comment dans la danse on est toujours en train d'essayer de construire des formes, de leur donner un espèce de pouvoir comme ça de émotif, presque lyrique, ou alors juste structurel, architectural, je sais pas.
Alors cette pièce 3, bah, on vient de la voir, hein, donc il faut d'une certaine manière un peu la digérer. C'est vrai que c'est très évocateur. Bon, on a pu parler de 2001, l'Odyssée de l'espace. Moi, j'ai pensé au livre de Bruno Latour, peut-être vous le connaissez, un philosophe qui a écrit son dernier livre, s'appelle « Où atterrir ?». Et donc il envisage justement cette situation avec le dérèglement climatique, les migrants, le sol qui se dérobe, où chacun perd son territoire en fait, et que la question c'est où atterrir, où recomposer un territoire où on puisse vivre ensemble. Est-ce que ça fait écho un peu à votre préoccupation ?
Oui, dans cette pièce, c'est vrai que il y a presque une... Il y a une mélancolie, enfin de toute façon, il y a une mélancolie comme ça, une forme d'injustice de ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui avec toutes ces migrations de population, ces guerres, ces choses qui sont injustement vécues aussi parce que voilà, c'est pas les gens qui les souhaitent en général, et c'est les politiques qui les créent, les provoquent et les animent, les enveniment, etc. quoi. Donc. Effectivement, moi, ce qui sous-tend en fait aussi le projet, la chose post-apocalyptique qui permet un peu ce récit-là, il y a deux endroits en fait où il y a un morceau qui s'appelle Danger. Donc, la bande sonore, c'est Ulysse Klotz qui l'a faite, qui est un compositeur qui est jeune et qui est très talentueux. Et dans ce rapport-là au danger ou en fait à une chose agressive dans le son, c'était aussi pour moi de dire que finalement, moi j'ai fait des recherches un peu comme ça sur la fois l'écologie, la sociologie, plein d'autres choses, enfin plein de pans comme ça de qu'est-ce qui sous-tend une société. Et c'est vrai qu'il y a une chercheuse qui s'appelle Isabelle Mansuit qui travaille en neurogénétique, qui tente de prouver justement que les violences vécues ou les traumatismes se passent de génération en génération souvent, et que il n'y a pas que l'écologie qui perturbe, mais il y a aussi tous les sentiments humains. Et c'est vrai que c'est ça, il y a cette chose-là justement sur la violence finalement, bon, que ce soit dans le sol qui se dérobe, la migration, enfin cette violence qu'on reçoit en fait, et qui a l'air d'être, quand on le vit, même dans nos propres vies, impossible à évacuer en fait. Du coup, il y a une espèce de chose un peu New Age hippie dans nos attitudes des fois que j'essaie de montrer, ou enfin d'un monde finalement plutôt utopique après ces déversements de haine qui ont mené à une espèce de guerre nucléaire qui a tout ravagé à l'extérieur, et donc il y aurait cette entité qui garderait une mémoire de l'homme, et qui voilà, et après dans mon délire il serait connecté aussi à la dernière dame phréatique qui pourrait peut-être nous sauver, nous trois dernières humanoïdes, pardon.
La dépression devrait venir des cieux. Aimerais-tu un massage de couleur ?
Comment vous êtes venue à la danse ? Comment vous êtes entrée dans la danse ?
Alors, j'ai commencé la danse grâce à ma meilleure amie quand j'étais en école primaire, avec qui je faisais du cheval d'ailleurs, et elle m'a emmenée à son cours de danse, et en fait après j'ai pas arrêté d'en faire.
Alors vous êtes chorégraphe, est-ce qu'il y a une écriture? On pense bon, à la musique, il y a la partition. Enfin bon, les musiciens ne pratiquent pas forcément cette écriture en partition, mais en ce qui concerne la chorégraphie, est-ce qu'il y a une partition? Est-ce que vous travaillez avec un écrit, des symboles qui disent quels sont les gestes à faire?
Ben là, pour le coup, à N3, je me suis inspirée de beaucoup de choses chorégraphiquement parlant. Du coup, il y a, je sais pas, par exemple, les avatars, les postures avatars dans la religion hindoue. Voilà, il y a la langue des signes où on a des gestes comme ça. Ça veut dire désert, ça c'est haut. Il y a tout un rapport aussi au kata, par exemple, qui sont des pratiques en fait pour se remémorer des gestes de combattants disparus. Plutôt au Japon, il y a des katas en aïkido, dans plein de pratiques martiales. Donc il y a des pratiques martiales, de tai chi, toutes ces pratiques énergétiques, voilà, l'hypnose. Comment est-ce qu'on est capable finalement de percevoir? Enfin moi, mon intérêt, il était aussi dans comment on rend visible un monde invisible. Un monde de fréquences, d'ondes. Mais c'est beaucoup, beaucoup, peut-être, c'est vrai que c'est beaucoup d'informations que j'ai envie de transmettre et qui ne sont pas forcément visibles, mais voilà, ça crée quelque chose de, j'imagine, d'étrange pour celui qui regarde.
Est-ce qu'il y a une part d'improvisation dans votre travail?
En général, pas du tout. Et là, du coup, tout est écrit. Après, dans cette pièce-là, effectivement, comme il y a beaucoup, beaucoup de travail, il y a un moment donné où il y a... la partie laser, je suis souvent en train d'improviser un petit peu finalement là-dedans, mais je tends à tout écrire en général, tout est très écrit.
Pour terminer, est-ce que vous pouvez dire un mot de votre équipe, les danseuses qui vous accompagnent dans cette pièce? Et puis bon, je ne sais pas si vous êtes une compagnie.
Alors bah oui, j'ai monté ma compagnie, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, c'était fin 2015, qui a été active plutôt en 2016, où, du coup, pour ma deuxième création Orion, avant je passais par d'autres structures. Et oui, Oda Rago, c'est une personne que j'ai rencontrée d'ailleurs à une audition de danse, qui est devenue finalement photographe pour mes projets. Et en fait, j'aimais tellement sa présence que je lui ai demandé de reprendre cette pièce. Et puis Paulina, elle m'a été recommandée par Nestor, qui a fait Orion avec moi. Et elles sont toutes les deux superbes, je suis ravie de travailler avec elles. et toute l'équipe, Thomas, L'Aigle, que j'ai aussi rencontré sur un autre projet. François, je l'ai rencontré à Bruxelles par le biais d'autres gens. Voilà, c'est des concours de circonstances, c'est des rencontres et voilà, je suis ravie d'avoir cette équipe avec moi.
Et vous travaillez déjà sur un autre projet?
Oui, effectivement, je travaille sur un autre projet avec mon compagnon qui est skateboarder professionnel, donc sur une chose sur le skate, sur The Rolling Stones. Enfin, en tout cas, voilà, sur le fait de rouler, d'avancer ou même juste le skate, cette pratique-là m'intéresse en fait. Du coup, j'ai envie de travailler un peu peut-être dans la même veine que sa prière, dans une chose un petit peu plus documentaire finalement, de m'éloigner de la fiction, mais de revenir à un dialogue à deux qui soit un peu plus réaliste, on va dire. Mais tout ça n'est pas encore fait, donc je suis encore là dans la finalisation de 3 et je prendrai le temps de me plonger dans ce nouveau projet quand le temps sera venu.
Ma membrane anesthésique perçoit des vibrations. Bâton localisé à bord du vaisseau G. Aimantation.
C'était un entretien avec la danseuse et chorégraphe Malika Djardi qui s'est produite au Théâtre d'Arras et à l'Hippodrome de Douai. Une interview réalisée par Jean Pasqualini.